Erin. Je me trouvais dans le bureau du fond en compagnie de Sean quand le visage grave d'une jeune policière au teint pâle est apparu dans l'encadrement de la porte. Il y en a une autre, chef. Quelqu'un l'a vue depuis le pont. Une jeune femme dans l'eau. À son expression, j'ai cru que Sean allait vomir. Mais ce n'est pas possible, il a soupiré. Il y a des policiers absolument partout. Quand on est arrivé sur place, il y avait déjà une foule de gens assemblés sur le pont, et les agents faisaient de leur mieux pour les y contenir. Sean s'est mis à courir sous les arbres et je l'ai suivi. J'aurais aimé ralentir, j'aurais aimé m'arrêter, parce que la dernière chose que je voulais, c'était de les voir sortir cette gamine de l'eau. Mais ce n'était pas elle, c'était Jules, et elle était déjà sur la berge à notre arrivée. Il y avait un bruit bizarre, comme une pie en train de jacasser. Il m'a fallu un moment avant de comprendre que c'était elle, Jules, qui en était à l'origine. Elle claquait des dents. Elle tremblait de tout son corps, et ses vêtements trempés adhéraient à sa misérable silhouette, pliée en deux comme une chaise de camping. Je l'ai appelée par son nom, et elle a posé sur moi deux yeux injectés de sang. Mais c'était comme si elle ne parvenait pas à faire la mise au point, comme si elle ne me reconnaissait pas. Sean a retiré sa veste et la lui a posée sur les épaules. Elle marmonnait, comme en transe. Elle ne nous a pas adressé la parole. D'ailleurs, c'est à peine si elle semblait avoir remarqué notre présence. Elle est restée assise, tremblante, à regarder l'eau noire de la rivière tandis que ses lèvres s'agitaient en silence, comme le jour où je l'avais vue devant le corps de sa sœur à l'hôpital. On aurait dit qu'elle était en train de se disputer avec quelqu'un qui n'existait pas. Le soulagement, si on pouvait parler de soulagement, n'a duré que quelques minutes avant qu'une nouvelle catastrophe ne frappe. Les agents qui étaient partis accueillir Mark Anderson chez lui à son retour des vacances avaient trouvé la maison vide. Mais pas seulement vide. Ils avaient vu des traces de lutte dans la cuisine, du sang sur le sol et sur les poignées de porte. Quant à la voiture de l'enseignant, elle était introuvable. « Bon sang !» a dit Sean. « Lena !»« Non !» me suis-je exclamé, autant pour me convaincre que pour essayer de convaincre Sean. J'ai repensé à la conversation que j'avais eue avec Anderson la veille de son départ en vacances. J'avais remarqué quelque chose en lui, comme une faiblesse, une blessure. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme dans cet état. « Non, » j'ai répété. « Il y avait des agents qui l'attendaient chez lui. C'est impossible qu'il ait pu... » Mais Sean secouait la tête. « Non, il n'y avait personne. Hier soir, on a eu un gros carambolage sur la 68, et c'était le branle-bas de combat. » On a pris la décision de redéployer les hommes. Il n'y avait personne chez Anderson jusqu'à ce matin. Merde ! Merde ! Je ne vous le fais pas dire. Il a dû revenir, voir tous les carreaux cassés et tirer la conclusion qui s'imposait. Lena Abbott a parlé. Et ensuite quoi ? Il est allé chez elle, il l'a enlevée et l'a ramenée chez lui ? Comment voulez-vous que je le sache ? A exposé Sean. Tout ça, c'est notre faute. On aurait dû placer la maison sous surveillance. On aurait dû placer Lena sous surveillance. C'est notre faute si elle a disparu.